Je vais vous faire la lecture du texte d'aujourd'hui qui se trouve dans Marc 10, 13 à 31 et 46 à 52. Des gens lui amenaient des petits enfants afin qu'il les touche, mais les disciples leur firent des reproches. Voyant cela, Jésus fit venir à moi. Jésus fut indigné et leur dit : Laissez les petits enfants venir à moi et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Puis il les prit dans ses bras et les bénit en posant les mains sur eux. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. » L'ayant regardé, Jésus l'aima et il lui dit, « Il te manque une chose, va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, charge-toi de la croix et suis-moi. » Mais l'homme s'assombrit à cette parole et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Regardant autour de lui, Jésus dit à ses disciples, qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent effrayés de ce que Jésus parlait ainsi. Il reprit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés et se dirent les uns aux autres, « Qui donc peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Alors Pierre lui dit, « Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, sa femme, ses enfants ou ses terres, sans recevoir au centuple dans le temps présent. » Des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions et dans le monde à venir la vie éternelle. Bien des premiers seront les derniers, et bien des derniers seront les premiers. » Ils arrivèrent à Jéricho. Lorsque Jésus sortit de la ville avec ses disciples et une assez grande foule, Bartimée, le fils aveugle de Timée, était assis en train de mendier au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» « Mon maître, lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vue. » Jésus lui dit, « Vas-y, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il retrouva la vue et il suivit Jésus sur le chemin.
Merci.
Bonsoir. Donc, cette année, ma fille aînée m'a dit qu'elle devait faire un choix d'orientation. Donc, ça n'existe pas aux États-Unis, un choix d'orientation. Mais c'est exactement ce qu'elle devait faire. Donc, j'ai appris que le lycéen doit faire ce choix d'orientation dans le second pour orienter leur vie, un peu leur vie, leurs études, dans les matières spécifiques, pour aller un peu plus loin. Donc, aujourd'hui, on trouve Jésus qui est en route. Il est en route vers Jérusalem et il attend. Il attend juste pour discuter, pour enseigner ses disciples sur leur choix d'orientation. Et le choix d'orientation à faire pour eux. Ils répondent à deux questions centrales. Deux questions centrales qui sont dans le texte qu'on va regarder ce soir. Donc, les deux questions, c'est « Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Et « Qui donc peut être sauvé ?»« Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle et qui donc peut être sauvé? C'est ce qu'on appelle parfois les questions existentielles. Tout le monde y pense. Ces questions vont au cœur de choses qu'on voudrait faire. Ça parle de notre destin, ça parle de notre vérité pour l'avenir. Comment on va orienter notre vie pour le futur? Et Jésus enseigne qu'un disciple doit orienter sa vie vers Christ dans la dépendance et dans le désir. Donc, dans la dépendance et dans le désir. Donc, parce que c'est la fin de l'année scolaire, j'ai pensé que peut-être c'est à vous à faire un bilan pour votre année spirituelle. OK? Donc, j'ai quelques questions pour vous ce soir pour votre année spirituelle. Et on voudrait voir quelles sont vos marques dans votre bulletin. OK? Attention. Donc, premier cours ce soir, c'est sur la dépendance. Sur la dépendance. Et on va regarder deux histoires. La première, versets 13 à 16, et la deuxième, c'est 46 à 52. Lorsque vous lisez ou entendez ou juste regardez la Bible, vous entendez toutes ces histoires de Jésus qui aime les enfants. C'est un homme qui aime les enfants. Et cela, c'est très différent que cette époque, dans l'époque de Romain. Parce que souvent, pour eux, c'était une personne, ce n'était pas important s'il ne peut pas contribuer dans la société. Et donc, les enfants, ce n'était pas quelque chose d'important jusqu'à le moment où ils peuvent contribuer. À l'époque de Jésus, souvent, il y avait un tas d'ordures à côté de nombreuses maisons où les gens pouvaient laisser les enfants non désirés. Donc, quelquefois, ou souvent, les gens peuvent récupérer ces enfants pour devenir des prostituées, des gladiateurs ou même des esclaves. Ce qu'ils ont pensé sur les enfants. Donc, on commence le texte. Et c'est le contexte où on voit que les gens emmenaient, verset 13, les gens emmenaient ces petits enfants à Jésus. Leurs petits enfants. Ces gens, peut-être c'est des adultes, peut-être c'est des parents, peut-être c'est des amis, mais ils voulaient que ces petits enfants rencontrent Jésus. Mais il y a un problème, n'est-ce pas? Malheureusement, les disciples ont cherché à restreindre tous ces enfants à lui. Verset 14, vous voyez que Jésus reproche publiquement aux disciples de lui avoir caché les enfants. C'est la seule fois qu'on voit ce mot indigné qu'ils ont utilisé pour Jésus. C'était une juste colère contre ses disciples. L'objet de notre indignation, quelqu'un a dit, l'objet de notre indignation dit quelque chose sur notre caractère. Jésus révèle sa compassion et sa défense pour des personnes sans défense, vulnérables et impuissants. Jésus affirme que les enfants méritent son temps et ils devraient mériter la nôtre. Êtes-vous comme ces personnes qui aiment les enfants comme Jésus? Ou êtes-vous comme les disciples qui n'ont pas le temps de faire le babysitting? Travaillez-vous au Biblicub? On a un Biblicub. Vous avez vu tous ces sièges qui sont maintenant vides. Ils avaient des enfants avant. Et maintenant, il y a quelqu'un qui enseigne ses enfants pendant ce culte. On a besoin de votre aide. On a besoin d'aide chaque année. C'est important pour notre Église. Et aussi, je pense que ça reflète vraiment le ministère de Jésus. Je n'ai jamais entendu un enfant après un Biblicub qui dit, « Ah oui, ça c'était super. Bravo. » Bon enseignement, on ne reçoit pas ces retours. Mais c'est une façon de servir l'Église quand même. Et je pense que c'est une bonne réflexion de tout ce que Jésus a fait. Et c'est pour les hommes aussi, juste pour noter, c'est pour les hommes aussi. Verset 15, Jésus dit que les enfants sont la clé pour comprendre la spiritualité du royaume de Dieu. Non, ce n'est pas à cause de leur innocence. Donc, vous savez que les enfants ne sont pas innocents. J'avais des jumelles et à 2 heures dans le matin, ils n'étaient pas innocents. Ils ont crié. Ils sont de petits pécheurs. Moi, je suis le plus grand pécheur dans notre maison pour différentes raisons. Mais les enfants ont le même ADN de pécheur comme Adam et Ève. Ils ont le même ADN comme nous, comme des adultes. Mais Jésus dit que le royaume de Dieu se reçoit et ne se mérite pas. Ça, c'est pourquoi c'est important de regarder ses enfants. Il est reçu, c'est le royaume de Dieu. Il est reçu comme un petit enfant où il n'est pas reçu de tout. Donc, par leur dépendance absolue à l'égard d'autrui, les enfants montrent la voie à suivre pour entrer dans le royaume de Dieu. Les enfants montrent la voie à suivre. Les enfants ont la capacité de jouer beaucoup, souvent, mais comprendre pas trop, ou pas tout, ou un petit peu. Ils doivent faire confiance à quelqu'un d'autre pour survivre. Et Jésus souhaite que les disciples trouvent leur dépendance en lui, qu'ils trouvent qu'ils peuvent survivre avec lui, plus important que tout ce que le monde peut leur offrir. Finalement, verset 16, vous voyez que Jésus a ramassé les enfants. Donc, je ne sais pas si vous pouvez imaginer, mais Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur, a ramassé tous ses enfants. Quelle image de sa grâce! Il est tendre et affectueux. Ça, c'est notre Jésus. Envers ceux qui ne lui apportent rien d'autre que leurs besoins. Les enfants sont la clé du royaume de Dieu. Après, il mit ses mains. C'était vraiment une tradition dans le hébraïque. C'était une tradition à cette époque-là pour les Hébreux. Et ils ont mis leurs mains et ça, ils peuvent parler un mot, ils peuvent dire quelque chose pour l'avenir. Donc, c'était important pour eux. Et c'était important pour Jésus. Et voilà, vous avez la clé pour le royaume de Dieu. Mais aussi, on a une autre histoire, qui commence à verset 46, qui parle pas d'un enfant, mais avec un adulte, s'appelle Bartimée, un aveugle. Jésus, c'est la dernière arrête avant que Jésus arrive à Jérusalem. C'est son dernier miracle aussi. Et Jésus s'arrête et aide un pauvre aveugle à Jéricho, nommé Bartimée. Bartimée, c'est un adulte, mais peut-être il était vu comme peut-être un enfant. La plupart des gens ne remarquent plus Bartimée. Ils ne le voient pas, ils ne l'entendent pas. Et Jésus passe et il entend sa cri à haute voix. Il dit, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Cet aveugle, il prononce une promesse de l'Ancien Testament quand il voit Jésus. « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Bartimée reconnaît sans excuser son état d'impuissance et de désespoir. Et il ne peut pas s'enrichir lui-même, un peu comme ses enfants. C'était peut-être la première fois que les gens, peut-être, ils ont entendu les choses que Bartimée a dit. Mais ils n'ont pas bien reçu les choses qu'il a dit. Ils n'ont pas reçu les choses qu'il a criées. C'est un peu comme « Tais-toi, arrête, ne dis pas quelque chose. » Parce qu'il était un preneur. Il n'est pas quelqu'un qui peut contribuer ce qu'ils ont pensé. Il ne fait aucun doute que la foule était brillante, il y avait du monde. Mais Marc nous dit que c'est une personne solitaire qui attire l'attention de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et Jésus a stoppé cette caravane à ce moment-là. Il a stoppé cette caravane parce qu'il a entendu une voix, et c'était la voix de Bartimée. Jésus a enseigné à ses disciples à l'art de s'arrêter. J'ai besoin de cette art. L'art de s'arrêter, comme il avait fait tout au long de son ministère pendant ces dernières 2 années. Il y a toujours quelqu'un qui a besoin de notre aide, n'est-ce pas? Est-ce que vos affaires et vos préoccupations es-tu le roi? L'histoire continue, verset 49. Avec compassion, Jésus dit, appelle-le. Donc, il part de ce monde, il dit, appelle-le. Donc, l'aveugle arrive à Jésus. Vous savez, c'est une chose d'entendre, c'est une autre chose d'écouter. Et certains d'entre nous sont bons ni l'un pour l'autre. Certains d'entre nous, c'est difficile, n'est-ce pas? Mais notre Seigneur Jésus, lui, sait faire les deux. Jésus a entendu son cri comme Bartimée a crié et il entend la nôtre. Jésus a écouté sa demande comme il a écouté la nôtre. Bartimée criait à la miséricorde et Jésus va lui répondre rapidement, simplement. Qu'est-ce qu'il a dit? vas-y, ta foi t'a sauvé. Comme ça. Vas-y, ta foi t'a sauvé. Il ne dit pas que l'homme a mérité quelque chose. La grâce est la main divine qui apporte la guérison à ce moment-là. Et la foi est la main humaine qui tend la main et la reçoit. Et l'objet de notre foi est crucial. Bartimée n'avait pas une foi vide. Non, qu'est-ce qu'il a fait? Bartimée a dirigé sa foi vers la seule personne qui peut le guérir, la seule qui pouvait sauver. Et comme les enfants qui sont venus pour voir Jésus, Bartimée cherche Jésus en pleine dépendance, en pleine espérance en lui. Il y a un commentaire qui dit que Bartimée a clairement illustré la vie de disciple. Il a reconnu son incapacité à faire confiance à Jésus pour lui accorder la miséricorde de Dieu. Et lorsqu'il a pu voir clairement, il a commencé à suivre Jésus. Ça, c'est un disciple. Selon certaines traditions de l'Église primitive, ils ont dit que même Bartimée a suivi Jésus jusqu'au caverne. Et à Jérusalem, il est devenu une importante figure dans l'Église à Jérusalem. Notre Sauveur engage les disciples dans un enseignement sur la vraie vie des disciples et sur sa crucifixion et sur sa résurrection à venir. Personne ne peut pas gagner le royaume. L'exigence est la même pour tous, une confiance simple, même pour les enfants et même pour Bartimée. Simple et enfantine en Jésus. On dit dans notre Église, en Christ. C'est pourquoi. Ben, on a entendu pendant le baptême que si on parle de dépendance, c'est un peu folle. C'est-à-dire qu'on a besoin de quelqu'un d'autre, même un Dieu. Mais ce qu'on voit dans la Bible, c'est la vérité. On a besoin de Dieu. On a besoin de cette dépendance. Et même ces derniers jours, j'ai appris que ben, nous sommes en train de préparer de partir. Et quelquefois, j'étais frustré ou j'étais en colère. Et je trouve que j'ai senti que c'est par mes mains que je vais arriver. Est-ce que je dépends de Jésus et est-ce que je lui fais confiance ou est-ce que je dépends du travail de mes propres mains et de ce que je peux apporter? Donc ça, c'est notre premier bilan pour cette année sur la dépendance. On a deux questions. Au cours de l'année écoulée, est-ce que j'ai grandi dans la dépendance de Jésus-Christ comme mon Sauveur et Seigneur? Est-ce que j'ai grandi dans la dépendance? Est-ce que tu as besoin d'être guéri? C'est une deuxième partie. Ça peut être quelque chose de physique, ça peut être quelque chose de spirituel, mais est-ce que tu as besoin d'être guéri? Le deuxième cours pour ce soir, c'est sur le désir. Et on va voir la deuxième histoire, verset 17. Donc, dans l'évangile de Luc, chapitre 18, il dit que c'est un homme qui est un chef. En Matthieu 19, verset 22, il dit que c'est un jeune homme. Et ça, c'est pourquoi on s'appelle le jeune homme riche. Voilà, les trois différentes histoires. Le jeune homme avait le désir de suivre Jésus, n'est-ce pas? Il a ce désir. Et il n'a pas marché vers Jésus. Il dit dans le texte qu'il a couru vers lui. Il a vu quelque chose en Jésus. Il était certainement venu dans la bonne manière parce qu'il est venu avec une humilité et vers la bonne personne parce qu'il est venu à Jésus. Et je pense que c'est intéressant, en tant que fils de Dieu, Jésus a bien compris ce jeune homme riche aussi. Peut-être qu'ils étaient à peu près le même âge. Mais Jésus avait vécu avec la grande richesse. Il a vécu avec son Père et le Saint-Esprit. Il a vécu dans l'éternité, dans la gloire, dans l'amour et dans une communion avec son Père. Et maintenant, Jésus avait déjà tout laissé, toutes ces choses, et il est devenu homme et il est sur cette terre. Donc Jésus a appris qu'est-ce que ça veut dire d'être riche. Paul a dit en 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9, « Bien que riche, il s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté, vous deveniez riche. » Cet homme appelle alors Jésus « bon maître ». Ça veut dire qu'il a pensé qu'il y a quelque chose d'important sur cet homme, Jésus. C'est intéressant parce qu'à cette époque-là, ils n'ont pas appelé un homme ou une personne bonne. La seule personne qui était bonne, c'était Dieu. Mais cet homme appelle Jésus bon. Et ce n'est pas une mauvaise question, que dois-je faire? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça implique qu'il croit que la vie éternelle est une chose pour laquelle on travaille. Que dois-je faire? Et toutes les religions dans le monde peuvent être classées dans, je pense, ces deux catégories. Fait ou à fait. Je pense que Josh a dit la même chose ce soir. Je suis sauvé parce que je fais ou parce qu'un autre a fait. Le christianisme, c'est une religion ou une relation faite. C'est à grâce et les choses que Jésus a fait pour nous. Jean chapitre 3, verset 7. Donc Jésus répond à la question de ce jeune homme. Il me semble, il pense, est-ce que tu comprends exactement ce que tu es en train de dire, que je suis un bon? Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Donc, le point de départ pour ce jeune homme, c'était erroné parce qu'il savait que dois-je faire? Donc, ça veut dire que ça commence avec le critère qu'il peut faire quelque chose. Mais aussi, il a commencé avec cette idée qu'il y avait peut-être cette personne devant lui qui était bon. Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est juste un homme qui est bon? Jésus n'entend pas de réponse. Jésus demande et cite d'autres questions aussi. Il cite les 6 derniers commandements qui traitent de nos relations humaines les uns avec les autres. Et le jeune homme répond, « Mais maître, j'ai gardé tout cela depuis ma jeunesse. » Donc, il a obéi toutes ces lois, un peu comme Paul a dit dans Philippiens chapitre 3, quand il a dit qu'il était irréprochable. Et cet homme, il était réprochable peut-être par les exigences extérieures de la loi. Mais après avoir abordé ces 6 derniers commandements, Jésus aborde maintenant le premier. Jésus dit, alors, il ne te manque qu'une chose. Va vendre tout ce que tu as et donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Donc, l'exigence particulière que Jésus impose au jeune homme riche n'est pas pour toutes les personnes. Elle lui est spécifique, bien qu'elle puisse l'être aussi pour certains d'entre nous. Il a peut-être obéi relativement parlant aux commandements qui concernent les relations humaines, mais il a vécu dans la désobéissance. Cet jeune homme riche, qui a dit que j'ai fait tout, cet homme riche, il a vécu dans la désobéissance, le péché et l'idolâtrie perpétuelle, parce que sa richesse occupait la place que seul Dieu avait dans sa vie. C'était son idole, c'était son Dieu. On ne peut pas aimer suprêmement Jésus et aimer suprêmement l'argent. Et Jésus se propose de remplacer ses richesses de l'homme. Tim Keller a dit, « Lorsque Jésus a appelé ce jeune homme à renoncer à son argent, celui-ci a commencé à s'affliger, car l'argent était pour lui ce que le Père était pour Jésus. C'était le centre de son identité. » Perdre son argent aurait été se perdre lui-même. Vous pouvez imaginer les disciples, ils ont entendu déjà l'histoire de, OK, on doit être comme un enfant. Maintenant, il y a un jeune homme riche qui est venu et en fait, il a des problèmes aussi. Donc, si vous êtes le disciple, qu'est-ce que vous allez dire? Donc, Jésus a dit, mes enfants, et il continue d'expliquer qu'est-ce qui se passe. Parce qu'à cette époque-là, il y avait aussi une théologie prospérité. Pour quelqu'un qui avait de richesse, ça veut dire qu'ils avaient une faveur de Dieu. Donc, ses disciples, ils ont pensé que c'est un jeune homme riche, donc ça veut dire qu'il a une faveur de Dieu. Et dans ce texte, Jésus ne condamnait pas la richesse, mais il dit que le fait est que la richesse engendre la confiance en soi, qu'elle crée une dépendance et qu'elle devienne la priorité de la vie au détriment des choses de Dieu. On a déjà parlé de la dépendance et on discute maintenant cet aspect de désir. Donc, Jésus continue. Il est plus facile, verset 25, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Un peu bizarre, cette image. Et vous pouvez imaginer, les disciples, ils n'ont pas bien compris non plus. L'idée d'essayer de le faire passer, bosse et tu par le chaste d'un aiguillé, aurait, semblablement, peut-être impossible pour ces disciples. C'était le plus grand animal dans cette région-là. Pourquoi? Parce que Jésus renverse le système de valeur dans le monde. Le salut est une chose que l'homme ne peut pas accomplir. Il suffit d'une seule chose, comme la richesse, pour vous empêcher d'entrer dans le royaume de Dieu. Le salut a toujours été et sera toujours un accomplissement divin grâce à l'expiation parfaite et à la mort sacrificielle du Fils de Dieu sur la croix. C'est comme on a dit, c'est fait et non pas à faire. Jésus a dit, verset 27, « Aux hommes, cela est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Et c'est encore possible pour vous. Pour les hommes, entrer dans le royaume de Dieu et recevoir la vie éternelle est impossible et personne ne sera sauvé. Avec Dieu, tout est possible. Et tout le monde peut être sauvé si vous désirez Jésus comme votre sauveur. J'aime bien Pierre. Pierre dit les choses qu'il pense. C'est juste tout de suite. Donc, versets 28 à 30. « Voici, nous avons tout quitté et nous avons t'avons suivi. » Donc, il pense toujours, « OK, mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous? On a quitté tout. » Mais Jésus a répondu que « Vous ne manquerez pas de le recevoir en son tuple. Maintenant, en ce moment et dans le temps à venir, la vie éternelle. » Les choses auxquelles Jésus dit que nous devons peut-être renoncer sont des choses précieuses, n'est-ce pas? La maison, les frères et les sœurs, la mère ou le père, les enfants sur la terre. Suivre Jésus coûte cher. Peut-être vous avez déjà senti cet aspect d'un disciple de Christ. Suivre Jésus coûte cher. Mais aussi, Jésus ajoute ses bénédictions avec des persécutions. C'est un peu surprenant, mais avec des bénédictions, avec ses persécutions. Parce qu'il voudrait expliquer que si vous allez suivre Jésus, il y aura des moments difficiles. Il y aura des souffrances en son nom. Il y aura des afflictions. Ce que le Christ veut certainement dire, c'est qu'il compense lui-même toute perte. Je promets de travailler pour vous et d'être pour vous à tel point que vous ne pourrez vous dire que vous avez sacrifié quoi que ce soit. C'est comme Hudson Taylor qui a vécu en Chine pendant 50 ans en tant que missionnaire. Il a dit, j'ai jamais fait de sacrifice. J'ai jamais fait de sacrifice. Une fois de plus, le système de valeur de l'époque actuelle est renversé. Et dans le royaume de Christ, il y a un grand renversement de toutes les normes terrestres de position. Pour le grand public, qu'est-ce qu'ils ont pensé? Qu'est-ce que c'est important pour le grand public? Le grand public pense que c'est le jeune homme, pas le disciple. Mais Dieu ne value pas par ce monde. En tant que citoyen de son royaume, ses enfants devraient penser davantage comme lui plutôt que comme le monde. Tim Keller a dit que le cœur de l'Évangile, c'est l'abandon de pouvoir, l'utilisation des ressources et des services. Le christianisme est toujours en train de migrer loin du pouvoir et de la richesse. Ça, c'est le cœur de l'Évangile. C'est tellement différent les choses qu'on a entendues, même cette semaine. Je suis toujours étonné de voir à quel point mon désir peut changer mes décisions. Mon désir. Je suis plus convaincu que le Saint-Esprit peut transformer même mon cœur et par mon cœur. Il peut changer mes habitudes, il peut changer mes rythmes, il peut changer mes décisions. Et ça commence avec mon désir. Et mon désir va orienter vers Christ. La question pour vous ce soir, la deuxième question sur cette courbe de désir, Est-ce que j'ai plus confiance dans mes œuvres ou l'argent que dans la justice de Jésus-Christ qui nous a acquis à la croix? Est-ce que je trouve la satisfaction dans une vie humble avec Jésus ou est-ce que je recherche davantage le pouvoir ou le prestige? Quelles ont été vos remarques spirituelles cette année? Avez-vous reçu un assez bien, très bien, félicitations cette année spirituelle? On a commencé avec deux questions. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? La bonne nouvelle aujourd'hui est ce que, comme Jésus nous le rappelle, tout est possible grâce à Dieu. Si vous êtes un disciple de Christ vivant en France, je pense qu'on peut dire que vous êtes le chameau. Je suis désolé, mais vous êtes le chameau qu'il a fait passer par le char d'un aiguillé. Lui est Dieu qu'il a fait impossible dans votre vie et ce que vous avez reçu est une grâce qui a été donnée en raison de ce que Jésus a fait pour vous. Ce n'est pas par les choses que vous avez accomplies. Ce soir, en Christ, vous avez tous reçu félicitations. Félicitations en Christ, si vous avez reçu Christ comme votre sauveur. Qui donc peut être sauvé? Comme des enfants, Henri a apporté que notre faiblesse et nos besoins, et il nous a gratifié de sa puissance et de sa bénédiction. Comme Bartimée, on était tous aveugles jusqu'à Jésus nous rend la vue. On était de pauvres, comme Bartimée, jusqu'il nous sauve en tant que rançon. Comme le disciple, Jésus promit une bénédiction 100 fois plus que les choses on va perdre dans cette vie. Dieu soit loué, Jésus a accueilli les enfants. Et dans l'avenir, il va ramasser ses enfants, n'est-ce pas? Dieu soit loué, Jésus a eu du temps pour vous et moi. Il écoute vos prières. Il écoute les moments quand vous criez à lui. Il écoute, il entend. Dieu soit loué, Jésus tient ses promesses pendant les hauts et les bas, pendant les moments très durs, très difficiles, et pendant les moments quand tu as bonne santé et tu vas bien. Jésus tient ses promesses. Rien n'a changé. Jésus s'arrête toujours pour tous ceux qui invoquent son nom. Non pas à cause de ce que nous lui apportons, mais dans la richesse de sa grâce et de sa miséricorde qu'il nous apporte. Et comme le vulnérable, comme le disciple, comme le pauvre, comme les aveugles, comme le disciple, comme Daniel, comme Josh, comme Sylvain, personne n'est déçu par ce qu'il fait. Oui, il y a de l'espoir pour quiconque, dans la foi, regarde Jésus, oriente leur vie par le désir, par la dépendance en lui et le suit. Amen. La nuit que Jésus a été arrêté, ils ont mangé un repas ensemble et après, il a pris un coupe et il a pris le pain. Et il a expliqué que c'était un peu l'image de lui. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'il vient. Jusqu'il vient. Donc ce soir, examinez-vous, examinez votre cœur. On avait des questions même pour cette année spirituelle. Où êtes-vous? Où est-ce que vous avez besoin de repentir? Mais aussi, ce soir, on vient avec rien. Parce que Jésus, il a tout donné. Ça, c'est l'image de ce repas pour nous, en tant que personne qui croit que Jésus-Christ est votre Seigneur et Sauveur. On prie et après, vous pouvez participer dans la Sainte-Seine. Seigneur, merci encore pour ce soir. Merci pour cette occasion d'étudier ta parole. Merci pour ces personnes qui sont là, qui écoutent, qui ont entendu ta voix et ta parole. Seigneur, donne-nous le désir dans nous. Cet aspect juste de focaliser notre vie vers toi. Seigneur, aide-nous cette année, aide-nous cet été à utiliser cet art de s'arrêter et de passer plus de temps avec toi. Seigneur, merci encore pour ce repas que c'est rien pour, on a accompli rien sauf par ta grâce. On vient avec les mains ouvertes pour toi, par ta grâce. Amen.